it comes. First down! Here it comes. First down, says Red Cashin.
OK, on est de retour à la zone payante. On est rendu à notre match et on va commencer avec un premier essai. Puis on va commencer ça avec un pick six parce que Stéphane veut nous parler du rôle des défensives. Ils sont en train tranquillement, Steph, de retrouver leur repère après des matchs qui finissent 48-43.
Ça commence fort, un pick six, par exemple.
Ouais, ça commence exactement comme les Steelers contre les Browns, là, je te dirais. Ça ressemble au début de match qu'on a vu avec un beau Minkah Fitzpatrick dans la gorge.
Puis en plus, en disant ça, tu fais mal à la fois à Jean et à moi.
Ben, écoute, d'une pièce.
C'est le joueur des Dolphins, bien échangé par les Dolphins.
Mais écoute, tu sais, pour répondre à l'intro que tu faisais, c'est pas que l'attaque meurt en ce moment. Au contraire, là, on continue de voir des scores très élevés. Puis, écoute, on s'enligne encore pour une saison record au niveau de l'offensive. Mais ce que j'aime, c'est que tranquillement, on voit là, de plus en plus des défensives remonter à la surface. Puis je pense que ça va être le cas là, dans les prochaines semaines. On va en voir encore de plus en plus. À commencer par les Steelers, tu sais, ça a été vraiment une domination totale du côté de la défensive des Steelers face aux Browns. Baker Mayfield, qui a été victime de 5 sacks, il a été frappé 13 fois au total. Les Browns ont été limités à 76 verges au sol. Tu sais, rappelez-vous, là, depuis le début de l'année, comment c'est une machine au sol, les Browns de Cleveland. S'il y avait un élément dans leur jeu dont on était sûr, c'était bien celui-là. Puis les Steelers sont allés les bouffer tout rond. Les Steelers, cette année, chacun de leurs matchs, au moins 3 sacks, au moins une interception. Tu sais, c'est une défensive qui est très... est abonné au gros jeu, là, si on veut. Ça peut toujours faire mal, mais là, on sent qu'ils prennent un step de plus là, de semaine en semaine. Les Bucs de Tampa Bay, même chose. Tu regardes le travail qu'ils ont effectué contre l'offensive des Packers. Moi, j'étais rendu au point de me dire, je me demande si l'offensive des Packers n'est pas aussi redoutable que celle des Chiefs là, dans les dernières semaines. Ils donnaient des leçons de 30-40 points à tout le monde. Puis là, ils sont tenus à 10 points par les Bucs. Pour vous donner une idée, les Bucs, c'est pas nouveau de cette semaine. On parle beaucoup de Brady, de Gronkowski, des ajouts qu'il y a eu là-bas à l'attaque, mais on parle trop peu, encore une fois, de leur défensive. C'est la deuxième équipe dans les 20 dernières saisons qui, jusqu'en 6 matchs, là, qui ont au moins 10 revirements, au moins 20 sacs à leur actif, puis qui accordent moins de 70 verges au sol par match. Donc, ce que ça veut dire, cette statistique-là, c'est qu'ils sont bons dans toutes les facettes. Tu sais, les derniers à avoir fait ça, c'est les Steelers de 2008 qui ont remporté le Super Bowl, d'ailleurs. Donc, on va se calmer, on n'est pas rendu là avec les Bucs, mais c'est une défensive qui, de plus en plus, monte en haut, là, tu sais, qui se hisse parmi la crème, là. Tu sais, t'as d'autres équipes qui gagnent des matchs avec leur défensive aussi. On peut penser aux Bears. C'est bien beau, là, Nick Foles. C'est correct, il fait le nécessaire, disons-le comme ça.
Ouais, ou c'est bien pas beau, Nick Foles.
Mais tu sais, ça dépend des matchs, là. Il est capable d'être correct, il est capable d'être adéquat. Il y a des matchs qui jouent bien, d'autres matchs qui jouent vraiment pauvrement. Mais les Bears, match après match, la défensive se présente. Puis c'est grâce à eux que c'est l'une des surprises de la NFL. Tu sais, on parle d'une fiche de 5-1 au sommet de la NFC Nord. C'est surprenant devant les Packers là, quand on s'arrête à ça. C'est parce que leur défensive vient de donner 3 matchs de suite de moins de 20 points. 2 des 3 derniers matchs, moins de 200 verges par la passe accordée. 4 virements lors des 2 derniers matchs. T'sais, tu vois une tangente là. Donc, tranquillement, la défensive était pas là au début de la saison. Là. Peu importe là, les équipes, les scores étaient insensés. Je pense que ça va nous donner du meilleur football. Tu sais, le spectacle est bon, c'est divertissant quand ça finit toujours 40-38. Mais n'empêche que quand la défensive reprend ses droits un peu, t'as du spectacle qui est plus équilibré, là, je te dirais, parce que les amateurs de football aiment aussi de bons duels défensifs, là, tant qu'il y a de gros jeux de part et d'autre. Donc, je pense qu'on va y gagner à moyen et long terme, là. Donc, la défensive se replace, puis je vois pas ça comme une mauvaise nouvelle du tout.
Hey Jean, on va y aller avec toi pour le deuxième essai. On va prendre une petite course au centre là, à la Frank Gore de 2 verges. parce qu'on parle des Jets.
C'est conservateur, ça, comme appel de jeu. Là.
Ouais, mais c'est peut-être dans le souhait de perdre le match, parce qu'on dirait que les Jets, c'est ça qu'ils veulent. Là. Ils veulent-tu finir dernier? Et qui vont repêcher s'ils finissent dernier, les Jets?
Ben écoute, la pierre angulaire du prochain repêchage, on peut tout de suite le mentionner, c'est la fierté de l'Université Clemson, c'est Trevor Lawrence. Lawrence, c'est, écoute, tout ce que tu désires d'un carrière de franchise, honnêtement, tu peux cocher chaque catégorie. Trevor Lawrence, il possède. Tu regardes son physique, c'est un 6 pieds 6, 220 livres, à peu près un gabarit parfait de la NFL. Tu regardes sa puissance de bras, il lance le ballon très fort, capable de le lancer très loin. Est-ce que la précision est là? Tout à fait. Peut-être au tout début, même l'an dernier, il y a eu peut-être un petit peu de difficulté avec le nombre d'interceptions. Cette année, il n'y en a pas encore lancé une présentement dans la NCAA. C'est un carrière qui, selon moi, était prêt à sa première année à faire le saut dans la NFL quand il avait battu Alabama au National Championship. Je pense qu'il avait démontré que c'était un carrière hors de l'ordinaire. Là, il est 2 ans plus tard, il est plus mature. Il est assurément prêt. Je vois pas honnêtement comment ça pourrait être un flop, cette carrière-là. Puis souvent, je trouve qu'on prend les carrières trop tôt. Mais dans le cas de Lawrence, ce n'est pas nécessairement le cas. Je trouve que c'est le plus beau talent de carrière depuis Andrew Luck. C'est dans le même moule là, que Peyton Manning. C'est un carrière qui est très, très talentueux. Donc, est-ce que tu veux faire par exprès pour avoir un joueur comme ça? Moi, peut-être que je suis naïf, mais j'ose croire que sur le terrain, les joueurs se donnent toujours à 100%. Ça reste des professionnels. Maintenant, est-ce que le deuxième étage peut faire par exprès pour essayer de faire perdre des matchs? Ça, oui, ça, c'est différent. Dans le cas des Jets, on dirait qu'ils ont déjà abandonné depuis le début de la saison. Mais je tiens à dire qu'ils sont pas seuls, hein, Jean-Nic. Il y a quelques équipes qui sont dans la course. Trevor Lawrence, faut pas oublier les Jags, qui, après une victoire surprise à la première semaine, sont franchement mauvais avec 5 matchs consécutifs de plus de 30 points en défensive. Ça se voit qu'ils ont des trous partout. Eux aussi ont de la difficulté. Gardner Minshew, après un bon début, ça a été vraiment plus tranquille des dernières semaines. Donc, ça prend juste une victoire des Jets, puis là, ça va être la course est relancée. Les Giants, l'équipe de Washington sont aussi dans la course. Donc, on va voir la suite des choses. Il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas juste Trevor Lawrence qui est dominant cette saison. Il y a d'autres carrières qui font très bien. Et je pense qu'ils vont être des choix disponibles au repêchage. Je pense à Justin Fields à Ohio State, Zach Wilson à BYU qui fait vraiment bien depuis le début de la saison. Et peut-être également Sam Ehlinger, le carrière de l'Université Texas, un Longhorns. Donc, c'est un peu ça qui fait le tour de ce qui attend la cuvée de carrière pour le repêchage.
Ouais, les Jets ont vraiment l'air d'y aller pour la coupe parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, Adam Gase est toujours l'entraîneur des Jets. Puis ouais. Je voyais aussi qu'il y avait des anciens joueurs de la NFL comme Roddy White qui conseillait à Trevor Lawrence de rester à Clemson plutôt qu'aller jouer pour les Jets.
Ouais, ça j'ai toujours de la difficulté avec ça. Tu sais, je trouve pas que c'est au joueur qui est repêché de choisir son équipe. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne dans le sport professionnel. Puis faut pas oublier aussi que les Jets, même si ça a l'air horrible présentement, ben la seule chose que, selon moi qui peut arriver, c'est qu'ils s'améliorent. Mais ça reste un gros marché. C'est New York là. C'est la grosse pomme. Si Trevor Lawrence débarque à New York, puis les Jets l'entourent le moindrement, ça peut devenir la plus grande vedette que le marché new-yorkais a eu depuis fort longtemps.
Bon point. Puis, écoute, les Jets, pourquoi virer Adam Gase à ce point-ci? Tu brises pas une recette perdante. Là. T'sais, ça va trop bien pour aller chercher Lawrence. Mais blague à part, t'sais, pour les équipes qui vont finir tout juste derrière, devant plutôt les Jets, là, on parlait de Washington, que ce soit les Giants, les Jaguars, peut-être Atlanta, qui sait. Jean, tu mentionnais des options intéressantes, puis il y en a plusieurs. T'sais, on parle même de Trey Lance. L'échantillon est minime là, en frais de temps de jeu à North Dakota State, mais c'est un carrière qu'on mentionne aussi là, qui pourrait partir tôt. Il y a Kyle Trask en Floride qui continue de son ascension.
Oui, il joue bien, effectivement.
T'sais, il y a plusieurs noms là encore une fois cette année, puis j'ai l'impression que ça va être le cas dans les prochaines années. On développe de plus en plus de bons jeunes corps arrière prêts à jouer dans les pros. C'est une différence majeure avec il y a quelques années à peine où tu en avais des fois un ou deux là, t'sais, qui sortaient vraiment avec un fort, fort potentiel. De plus en plus, je pense qu'on va voir cette tendance-là là, chez les jeunes carrières qui sortent de l'université.
Mais définitivement, Lawrence est au-dessus de sa classe. Il est spécial.
Ouais.
Il est vraiment spécial.
Carrément, oui.
Troisième essai, les gars, et on parle de trois équipes invaincues, les Seahawks, les Steelers et les Titans du Tennessee. Je vous demande, quelle équipe de ces trois-là restera invaincue en fin de semaine et qui devrait peut-être joindre le rang des équipes invaincues malgré le fait qu'ils ont déjà connu une défaite cette année?
Moi, j'ai le feeling que les Seahawks vont rester invaincus. Ils jouent contre les Cardinals, mais tu sais, on pourra en reparler en plus en détail dans les prédictions. Mais les trois équipes que tu viens de mentionner, oui, c'est trois équipes invaincues, mais ils ont les trois des points d'interrogation. Puis c'est pas pour chercher les poux, là, mais écoute, les Titans du côté défensif, à l'attaque, je me pose pas de questions. Là. C'est franchement impressionnant. Autant par les airs que la course. Du côté défensif, ils ont donné déjà trois fois plus de 30 points. Tu sais, il y a quand même des questions à se poser à ce niveau-là. Est-ce que c'est une équipe de championnat? Les Seahawks, bon, c'est la magie de Russell Wilson. Ça opère presque toujours. Sauf que le 4 de leurs 5 victoires, c'est par une possession. La ligne est très, très mince. Puis rappelez-vous, l'an passé, c'était la même histoire. 10 de leurs 11 victoires par une possession. Ça démontre que des fois, ça peut basculer très rapidement. Pour l'instant, ils sont du bon côté du tableau indicateur, là, mais ça peut changer très vite. Donc, il y a des questions quand même. Là. C'est pas une équipe où on regarde ça et on se dit « Wow, je vois pas comment ils peuvent perdre cette année. » Les Steelers, bon, sont très convaincants là, jusqu'à maintenant, mais reste que quand tu regardes les adversaires, les victoires jusqu'à maintenant sont survenues contre oui, les Browns la semaine passée, c'était peut-être la meilleure équipe qu'ils ont battue, mais sinon, les Giants, les Broncos, les Texans, les Eagles, toutes des équipes connaissent quand même leur part de difficultés. Donc, le test contre les Titans va être particulièrement pertinent là en fin de semaine. Bien hâte de les voir à l'œuvre contre une équipe qui peut faire des dommages de plusieurs façons. Mais si tu me dis, dans ces équipes-là, qui est la meilleure, qui a le plus de chances de se rendre loin, je pense que les trois vont être en série là, à la fin de l'année. Mais pour moi, l'équipe à battre demeure les Chiefs. Ils jouent de manière sous-estimée en défensive, je continue de le croire. Leur attaque est toujours aussi redoutable. Bon, il y a eu un faux pas face aux Raiders. Mais si tu me donnes le choix, là, c'est même pas dans les trois équipes invaincues. Moi, je vais piger dans la cour des Chiefs.
Ben écoute, c'est très sage de ta part. Par contre, je tiens à souligner que depuis le début du podcast, je dis que l'équipe la plus dangereuse pour les Chiefs, c'est les Steelers de Pittsburgh. Et j'en suis encore convaincu.
Tu penses qu'ils passent les Ravens? Ça, t'as pas changé d'avis là, dans la division?
Non, moi, j'ai pas changé d'avis. Je pense que j'ai les Steelers qui vont finir premier, mais je pense que c'est un club qui est dangereux pour les Chiefs de Kansas City, de la façon qu'ils sont construits. Mais pour répondre à la question, moi, j'ai pas la même réponse. Moi, j'ai les Titans vont peut-être rester l'équipe la plus invaincue le plus longtemps. J'aime comment cette équipe-là cavure présentement. Je trouve qu'ils ont démontrent plus de caractère que dans le passé. C'est un club qui est extrêmement physique sur les deux côtés de la ligne, autant la ligne à l'attaque que la ligne défensive. Ça va être un match pour homme, d'ailleurs, le match entre les Steelers et les Titans, parce qu'on va être branché assez rapidement. Quelle équipe va être invaincue dans ces deux formations, entre ces deux formations-là. Puis j'aime beaucoup l'équilibre à l'attaque des Titans. Écoute, ça enlève beaucoup de pression à Tannehill qui joue quasiment comme un joueur qui est candidat au trophée du joueur le plus utile là, présentement. Il faut le considérer, selon moi. C'est peut-être un peu tôt, là, mais il joue du sacré bon football. Évidemment, tu as une ligne à l'attaque physique. Tu as un monstre derrière qui s'appelle Derrick Henry qui est vraiment pas le fun à plaquer, surtout quand il descend au deuxième niveau. Puis là, tu as des petits demi-défensifs qui se demandent quoi faire contre cette espèce de bête-là qui arrive à pleine vitesse. On parle d'un porteur de ballon de 6'3", 245 livres, et qui est quand même, on l'a vu en fin de semaine contre les Texans, qui est capable aussi de partir pour de longues courses. Il possède la vitesse. Donc, moi, j'aime beaucoup l'attaque des Titans. Ils ont des bons receveurs. Brown, entre autres, est étincelant présentement. Donc, et un bon ailier rapproché de Jonnu Smith aussi est explosif. Donc, moi, c'est l'attaque que je trouve la plus équilibrée des trois. Défensivement, il y a des problèmes, je trouve, un petit peu dans la tertiaire des Titans, mais écoute, ils continuent de gagner, puis on verra si la recette va suivre en fin de semaine contre les Steelers. Et les Seahawks, messieurs, je voulais juste tenir, je tiens à le mentionner, sont invaincus avec la pire défensive de la NFL présentement au niveau des verges accordées. Ils donnent, tenez-vous bien, 471 verges par match.
Wow!
Et ils sont invaincus.
Écoute, si tu m'avais forcé à dire c'est qui, vite, vite, la pire défensive de la Ligue, je t'aurais dit de facto les Cowboys, donc tu me surprends quand même avec la stat.
Ouais, 471 verges de qui donnent par match, c'est astronomique. Écoute, l'équipe la plus proche, c'est 432 par la suite, c'est les Falcons. Donc, ça donne une idée comment Russell Wilson, je trouve que ça lui donne encore plus de munitions quand on parle du trophée du joueur le plus utile. Donc, c'est mon point de vue, Jean-Nic.
Ben merci les gars, puis on va avoir l'occasion d'en discuter aussi dans les prédictions. Restez là. Et après la pause, nous, on va passer au quatrième essai. On va décider si on botte ou si on y va. Restez là.